Chers frères et sœurs, bonjour. Belle journée printanière aujourd'hui. Je vais dire une phrase que je pense vous avez déjà entendue, avec laquelle j'espère vous n'êtes pas d'accord. Un homme, un vrai, ne pleure pas. Bon, ceux qui sont d'accord n'osent pas le dire, du coup. Figure très réductrice de l'homme, qu'on compare ainsi à un genre de bloc de bois, qui n'a aucun sentiment, qui ne les exprime en tout cas jamais, que l'on compare à un être sans cœur, qui s'interdit la faiblesse des émotions. Un homme, un vrai, ne pleure pas, eh bien c'est faux. Tenez, Jésus, c'était un homme. Et notre théologie dit que c'était un vrai homme, vrai Dieu et vrai homme. La Bible nous l'affirme et la Bible nous dit que Jésus a pleuré. Nous avons étudié l'évangile de Matthieu, enfin nous étudions toujours l'évangile de Matthieu cette année scolaire. C'est dans l'évangile de Jean que je vais trouver ces larmes de Jésus. Dans les traductions second avec lesquelles nous avons un certain nombre d'entre nous grandi, c'est le verset le plus court de la Bible. Deux mots. Jésus pleura. Bon, dans la traduction que j'ai utilisée, la nouvelle Bible second, c'est un peu plus long. Jésus fondit en larmes. Alors il y a un autre, d'autres moments où Jésus pleure, par exemple Jésus se lamente lorsqu'il arrive devant Jérusalem en sachant à l'avance le sort que va subir cette ville et surtout ses habitants. Le verbe utilisé ici est unique dans le Nouveau Testament, le verbe dans notre texte de Jean, Jésus pleura. Le récit dans lequel Jésus a pleuré se situe dans un petit village des montagnes près de Jérusalem qui s'appelle Béthanie. À Béthanie, il y a deux sœurs et un frère, s'appellent Marthe, Marie et Lazare. Ils vivent là, ils connaissent Jésus, ce sont ses amis. Cette Marie, vous savez, il y a plusieurs Maries hein, dans le Nouveau Testament, c'est un nom assez courant, c'est comme, qu'est-ce que je veux dire dans notre église, c'est comme si c'était une Jacqueline. Il y en a aussi plusieurs dans l'église. Alors, quand on parle de Jacqueline, on dit, mais c'est laquelle ? Eh bien, des Maries dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Laquelle ? Eh bien, c'est Marie de Béthanie. Chapitre 11 de l'Évangile de Jean, au début du chapitre jusqu'au verset 44, ce sera le texte dans lequel nous allons faire un peu de lecture. À vrai dire, l'histoire se passe à Béthanie, mais elle commence ailleurs si nous intéressons à Jésus. Jésus, lui, il est à environ deux journées de marche de Béthanie. Béthanie se situe près de Jérusalem. Là où se situe Jésus, c'est de l'autre, à l'est du Jourdain, un peu au nord de la, très proche de la mer Morte. Donc il n'est pas en Judée, il est juste de l'autre côté du Jourdain. 25 bons kilomètres à vol d'oiseau. J'imagine, c'est à peu près deux jours de marche. Parce que ce n'est pas 25 kilomètres de marche, c'est plus. La région est quand même très, très montagneuse, très vallonnée. Jésus se tient là, et des amis ou des serviteurs, des gens de la maison de Marthe et Marie, arrivent et disent à Jésus, « Jésus, ton ami Lazare, il est malade. » Sous-entendant par là, « Jésus, tu as guéri quand même pas mal de monde, s'il te plaît, viens, et puis guéris-le. » Quelle a été la réaction de Jésus? Il a pris le sac à dos, il a pris de l'eau et hop, il est parti pour les deux jours de marche? Non. Jésus laisse passer deux jours. Mais enfin, là, c'est quand même étonnant que Jésus qui vient d'apprendre que son ami Lazare est malade, alors que bon, si on vient le prévenir, c'est pas juste qu'il a un petit mal au pied, c'est que c'est grave ce qu'il a. Mais Jésus, vas-y, fonce! Mais non, Jésus prend son temps. Un jour passe. Il faut savoir quand même que si Jésus était en dehors de la Judée, c'est parce que en Judée, sa réputation était faite et que beaucoup de gens l'attendaient pour l'arrêter. Et que d'aller en Judée, et je vous rappelle que Béthanie, là où étaient Marthe, Marie et Lazare, c'est tout près de Jérusalem, d'aller en Judée présentait indubitablement un risque important. D'ailleurs, quand Jésus va dire « bon, ben, on va y aller au bout de ces deux jours », Thomas aura compris et dira « allez les amis, on va mourir avec lui ». Donc c'était vraiment grave pour eux, pour les disciples, d'aller en Judée à ce moment-là, parce qu'ils savaient que c'était très risqué. Un jour passe, peut-être qu'ils réfléchissent à cela. Deux jours passent. Ont-ils le temps, sans doute, de prier, de discuter ensemble, de se préparer à affronter la dureté des Juifs qui voulaient arrêter Jésus et le mettre à mort? Et puis Jésus sonne enfin le départ. Mais il précise à ce moment-là, est-ce que personne d'autre que lui ne peut savoir que Lazare en fait est déjà mort? Mais Jésus ne s'arrête pas là, il commence à faire comprendre à ses disciples que ce voyage sera utile pour leur foi, qu'il va se passer quelque chose. J'aurais bien aimé être une petite souris à ce moment-là et écouter ce que les disciples se disaient entre eux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Il dit, il dort, puis il va se réveiller. Et alors Jésus leur précise même, non, Lazare est mort. Vraiment, mort. Et alors pourquoi y aller? Mais ils partent. Le ventre noué par la peur, je me mets à la place de Thomas, qui vient de dire, bon, on va y aller, on va mourir, et on y va. Enfin, ça montre l'attachement des disciples. On les critique souvent. Mais là, ils y sont tous allés, en Judée. Ils comprenaient peut-être difficilement ce que Jésus allait faire. Ils n'osaient peut-être, alors que Jésus le leur avait dit, ils n'osaient peut-être pas espérer l'inespérable. Jésus avait dit « Je vais réveiller Lazare de son sommeil », mais Lazare est mort. Et puis alors pendant ces deux jours de marche, j'imagine qu'ils ont, ces idées ont tourné dans leur tête. Jésus n'avait-il pas dit que la maladie de Lazare ne conduirait pas à la mort? Je cite le verset 4. Et pourtant, Lazare est mort. Donc, il n'y avait pas que les jambes qui marchaient, il y avait aussi la tête et le cœur, et les entrailles. Quel marché ému! Et puis ils arrivent à Béthanie, enfin. Et c'est Marthe qui arrive à la rencontre de Jésus, un peu en dehors du village, tout d'abord. Elle lui fait des reproches, elle lui dit « t'aurais dû venir plus tôt quand même, on n'en serait peut-être pas là parce que Lazare est mort ». Verset 21. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Fin de la lecture. Donc après avoir fait le reproche à Jésus de venir trop tard, elle ouvre quand même une porte d'espérance. Elle dit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera ». A-t-elle dans l'idée, quelque part, un vague espoir que Jésus puisse faire l'impossible pour son frère Lazare? Elle va aussi affirmer que Jésus est le Messie attendu. Fin de l'épisode avec Marthe, et ensuite c'est Marie qui est restée proche, près de la maison. Marie lui fait aussi des reproches. L'accueil que Jésus a eu à ce moment-là était assez frais quand même. Lorsque Marie, verset 32, fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !» quand Jésus la vit pleurer. Et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. On voit ici notre Seigneur ému, touché. Il n'a rien dit à ce moment-là, mais ses larmes ont coulé. Le verbe grec qui est utilisé ici, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le verbe des larmes. On imagine Jésus avec le visage mouillé de ses larmes, la gorge serrée, le regard embué par ses larmes. Jésus aurait... Je ne comprends pas. Jésus aurait dû venir triomphant. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus allait redonner la vie à Lazare. Il l'avait annoncé avant même de partir faire ces deux jours de marche. Alors il aurait pu triompher en arrivant près de Béthanie et dire « Séchez vos larmes, Lazare dort et je vais le réveiller ». Il aurait pu, au milieu de tout ce monde, marcher fièrement vers le tombeau et ressusciter Lazare accompagné d'une chorale d'anges et de coups de tonnerre. Il aurait pu, comme il l'avait annoncé à ses disciples, avant de partir, manifester puissamment la gloire de Dieu. Au lieu de tout cela, Jésus fond en larmes. Il pleure avec ceux qui pleurent. Jésus, avec son visage baigné de larmes, impressionne les Juifs présents. Ils disent... C'était vraiment son ami, verset 37. Ses larmes. Parce qu'il voyait Marie pleurer, il a vu ce que peut être la douleur d'un humain. Ses larmes. Parce qu'en voyant deux sœurs et leurs amis pleurer, il a vu le drame d'une humanité trop souvent frappée par le malheur. Ses larmes. Parce qu'il voyait, lui, le terrible contraste entre la gloire du ciel qu'il avait quitté et le mal qui sévit dans ce monde. Ses larmes, parce qu'il savait que c'était pour sauver ces hommes et ces femmes perdus qu'il était là, revenu en Judée, bientôt arrêté, bientôt crucifié. Ses larmes, parce que la mort est une violence qui fait couler les larmes. Jésus nous montre ici qu'il n'est pas que le Messie triomphant, il est aussi le Christ qui aime, qui se laisse émouvoir. La suite de l'histoire, tout d'abord un encouragement à Marthe qui doute. Jésus, s'emportant de nouveau, verset 38, vint au tombeau. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Souvenez-vous, Marthe avait cette confession de la divinité de Jésus, de sa messianité. Elle disait, « Si tu demandes quelque chose à Dieu, quelque chose à Dieu, il va le faire. » Et là, elle doute. Et on aurait douté avec elle. Ils enlevèrent la pierre. Jésus leva les yeux. Deuxième élément de ce récit, la louange au Père Céleste. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et puis enfin, une phrase, elle aussi très courte. « Lazare, sors !» Verset 44, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et là, Jean évangéliste Jean, pourquoi t'es-tu arrêté de raconter ce qui se passe ? Mais enfin, j'aurais bien aimé, moi, voir la suite. C'est comme quand il y a une série télévisée et qu'on coupe juste au moment où il va y avoir quelque chose pour qu'on regarde l'épisode suivant. Mais là, il n'y a pas l'épisode suivant. On est sur notre fin. Moi, j'aurais bien aimé voir les cris, les larmes de joie, les embrassades, les merci, les gens qui s'évanouissent, les mains sur la bouche de stupeur, les yeux écarquillés, les exclamations. C'est pas possible, c'est pas possible. Tout ça, c'est pas écrit. Mais ça s'est passé. Et le mort sortit. Comme lyrisme, on fait mieux. Mais en même temps, pas besoin de mise en scène. La puissance de Jésus s'exerce à ce moment-là dans la plus grande simplicité, sans tralala, sans tambour ni trompette, sans les chorales d'anges et les grondements de tonnerre que j'ai évoqués tout à l'heure. Et le mort sortit. Quelle puissance merveilleuse. Pourquoi ai-je cité cet épisode aujourd'hui, dimanche du sel, où il est question de faire le bien et de bien le faire ? Il m'est venu à l'esprit assez vite. Tout simplement parce que Jésus nous y montre dans cet épisode, qu'il y a un temps pour comprendre, pour vivre l'émotion, pour souffrir avec les autres, pour les aimer, tout simplement. Et Jésus, là, se montre une fois de plus notre maître. Notre maître à se laisser émouvoir par les situations, parfois désespérées, des personnes que nous rencontrons ou dont nous entendons parler. Il nous interdit, ce Jésus, dans cette histoire, d'être de marbre devant ce que nous constatons, de ce que les associations comme le sel nous présentent. Jésus a pleuré. Comme Marie et comme Marthe, qui avaient perdu leur frère, j'ai moi-même perdu ma sœur, il y a 3 ans. Se sont gravées dans ma mémoire les larmes d'une famille, en particulier, il y en avait beaucoup d'autres, d'une famille que je connaissais à peine, qui fondait en larmes devant le cercueil, qui pleurait abondamment leur amie. Ma sœur avait été la marraine du petit, elle lui avait appris beaucoup de choses, et cette famille était inconsolable, tout autant que mon frère et moi. Eh bien, leurs larmes à cette famille m'ont fait du bien. Elles m'ont fait du bien parce que elles me disaient, tu n'es pas le seul à regretter ta sœur. Ta sœur a compté pour des gens qui aujourd'hui pleurent comme toi. Ces larmes, et si je les cite 3 ans après, pour certains d'entre vous qui connaissent mes capacités de mémoire, c'est à souligner, ces larmes m'ont redonné, par je ne sais quel mystère humain, du courage, parce qu'elles me montraient qu'il y avait du cœur chez ces personnes qui pleuraient, et ma sœur avait été précieuse pour elles. Marthe et Marie ont vu Jésus pleurer. Et je pense qu'elles ont été, elles aussi, encouragées par ces larmes de Jésus. Jésus n'est pas juste venu, bon allez, je vous le ressuscite votre frère, allez, on y va. Il a pris le temps de pleurer avec elles. Lorsque nous apportons notre aide à quelqu'un, prenons aussi le temps d'aimer cette personne, de considérer quelle est sa vie, de partager sa peine. Pour être de bons disciples de Jésus, soyons profondément humains. Ne nous débarrassons pas des personnes que nous aidons en signant un chèque, et puis voilà, ou en faisant une heure de bénévolat, et, et on aura fini, on aura satisfait à nos obligations chrétiennes. Non, aimons les personnes. Il y a beaucoup de gens à aimer dans ce monde. Pourquoi j'ai cité ce récit ? Non seulement parce que Jésus montre cet exemple de l'amour et de la compassion, mais ensuite parce que Jésus a agi. Enfin, vous imaginez, enfin, on aurait peut-être nous seulement fait ça, on serait venu pleurer, puis après on serait reparti. Mais lui, il a agi. C'était un signe, le mot signe, ça veut dire une manifestation, on pourrait le traduire par miracle aussi. C'était un signe de sa gloire divine qu'il donnait là, en redonnant vie à Lazare. Alors nous, bon, quand quelqu'un meurt, nous n'avons pas la même puissance entre les mains que celle que Jésus avait. Nous ne pouvons pas lui redonner la vie. Et Jésus, d'ailleurs, n'a pas redonné la vie à tout le monde. Le Seigneur est le même, il garde la même puissance aujourd'hui. Mais nous n'avons tout de même pas les mêmes moyens que Jésus aujourd'hui, même si nous sommes ses disciples. Prions, demandons à Dieu d'exercer sa puissance pour le bien, oui, mais nous n'aurons pas fini notre mission. Notre mission, c'est aussi nous d'agir avec les moyens que nous avons. Et là aussi, Jésus est notre modèle. Jésus avait la puissance de redonner la vie à Lazare, il l'a fait. Qu'est-ce que tu as comme puissance, toi, dans les mains ? Alors tu vas me dire, oui, mais moi je ne peux pas ressusciter les morts. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas rien faire ? Je ne peux pas ressusciter les morts, donc je ne peux pas parrainer un enfant, évidemment, pas possible. Donc je ne peux pas faire une heure de soutien scolaire par semaine, non, puisque je ne peux pas ressusciter les morts. Vous voyez où je veux en venir ? Comme Jésus a fait du bien, a servi la vie, là où il était dans cet épisode de Lazare, faisons-nous aussi du bien. Rendons la vie meilleure, agissons dans ce monde. Et ce sera à notre manière, comme Dieu nous le prête, une manière d'être nous aussi un signe à la gloire de Dieu. Pas un signe au sens d'un miracle, un acte de puissance, encore que ce n'est pas interdit, mais une manifestation de ce que Dieu peut faire au travers de nous, ou en nous, ou par nous. Donc comme Jésus, aimons et agissons. Certes, je vous entends d'ici dire « Oui, mais aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations plus dramatiques les unes que les autres. Nous ne pouvons pas, hélas, passer nos journées à pleurer à cause de tel ou tel drame dont on est au courant. » C'est vrai que la vie d'un homme ou d'une femme ne peut être faite que de larmes. Elle y a aussi construire nos foyers, travailler, nous reposer, nous réjouir et tant d'autres choses. Mais n'allons pas du tout ou rien. Choisissons ce que nous pouvons faire, ce qui est à notre portée. L'association Accès, dont je suis administrateur, a plus d'une fois été sollicitée pour remplir des missions nouvelles. Il était question, d'accueillir un nouveau type de public, d'avoir un nouveau type d'activité sociale, toujours dans le domaine social. Et notre réponse à nombreuses reprises a été non, nous ne savons pas le faire. Nous préférons faire ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. J'ose prétendre qu'il s'agissait là d'une certaine sagesse dont nous pouvons nous inspirer, parce que d'un autre côté, dans ce qu'on sait faire, il y a du boulot, et c'est là où on peut relever des défis. Qu'est-ce que tu sais faire ? L'un fera du soutien scolaire, comme je l'ai cité, l'autre parrainera un enfant, on l'a entendu, l'un sera visiteur à l'hôpital, l'autre bénévole à la banque alimentaire, l'un prendra soin d'une personne âgée, l'autre sera animatrice en colonie. L'une sera bénévole dans une œuvre sociale, l'autre sera donateur dans une action humanitaire. L'une soutiendra par ses achats le commerce équitable, l'autre participera à des actions de protection des prostituées. Je n'ai cité que quelques exemples. Qu'est-ce que tu sais faire ? À faire le bien, tout autant qu'en proclamant l'Évangile, notre Église n'en sera que plus belle. Et je termine par les larmes. Mais cette fois-ci, celles que l'on sèche. Jésus a pris le temps de pleurer avec les humains. Mais un jour, il séchera les larmes de nos yeux. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Dans la maison du Père, il va nous voir venir avec nos larmes. On aura pleuré pour des tas de raisons. On aura été touché, on aura été bouleversé. On aura eu des vies compliquées. Et nous voilà arrivés devant la maison, dans la maison du Père, qui essuiera les larmes de nos yeux. Et ce sera le repos. Donc oui, Jésus pleure, mais c'est pour mieux essuyer nos larmes un jour. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons un Maître qui est profondément humain et profondément divin. Dans son humanité, il a pleuré, il a eu de la compassion. Dans sa divinité, il a redonné la vie. Nous te louons, Seigneur, parce que Jésus est notre Maître à nous. Nous voulons être aussi, nous, profondément humains face à la misère des personnes que nous rencontrons. Et nous voulons vivre ta puissance, vivre ton œuvre en agissant dans ce monde, en tant que les témoins de ta grâce. Bénis-nous, Seigneur. Amen.